Le dossier de Marie-France Martin.
Marie-France.
Bonjour, Martin.
Hey, on n'a pas eu le temps de s'en parler tantôt. Puis tes fêtes, là.
Très belle fête.
Ouais.
Bien reposante. Ouais. Petite visite au Saguenay dans la
ben
famille.
Oui, mais c'est ça qui m'intéressait, le là.
Toujours du bien, le là.
Ben.
La bonne tourtière.
À B.
Les bons desserts à B. Ah oui, c'était magnifique. Puis la B est gelée, donc j'ai pu faire découvrir aux enfants la pêche blanche.
Ah oui?
Donc c'est toujours agréable. Okay. Hein?
Le hockey sur la glace aussi?
Non? Non, c'est plus
juste
la pêche blanche.
Ouais, la pêche?
Ouais, la pêche.
OK. Voilà. Bon, plus sérieusement, revenons sur des dossiers qui ont retenu ton attention au palais de justice. D'abord, ce planificateur financier qui a été condamné à une peine de pénitencier pour avoir fraudé des investisseurs.
Voilà, c'est Xavier Gervais, cet homme qui a été condamné à 40 mois de prison aujourd'hui, donc 3 ans, un petit peu plus que 3 ans, finalement, pour avoir floué pour 1 700 000 $ 4 clients de la Banque nationale de Richmond. Ça remonte, cette fraude-là, entre les années 2015 et 2017.
Hey, ça fait plus de 400 000 par personne.
C'est quand même
en
beaucoup
moyenne,
d'argent.
Là.
Oui, effectivement.
Hey, c'est beaucoup d'argent.
Et comment ça a commencé, tout ça? C'est que la famille de Xavier Gervais, dans un premier temps, lui avait prêté 75 000 $ pour qu'il fasse fructifier l'argent de ses proches. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des placements, mais qui se sont avérés assez mauvais, finalement. Il a perdu tout l'argent et en voulant rembourser sa famille, il en a profité pour flouer des investisseurs qui lui confiaient leur argent.
Ah, il prenait l'argent des autres pour rembourser sa famille. Puis après ça, l'argent d'un autre client pour rembourser l'autre client.
Exactement. Oh, mais ce qui a fait en sorte que lui a fait des placements à haut risque avec l'argent des investisseurs. Eux lui avaient confié des sommes qui provenaient entre autres de la vente de leurs terres agricoles. Lui, il a placé ça dans des endroits à haut risque et malheureusement, tout ça, ça s'est écroulé. Ça n'a pas donné les résultats attendus, ce qui fait que ces gens-là ont été brimés. Par contre, la Banque nationale a remboursé les sommes flouées aux victimes,
bon.
Une partie des intérêts aussi, mais tout de même, ça a des impacts, ces situations-là, Martin.
Ben oui.
Et il y a deux victimes aujourd'hui qui ont raconté au tribunal comment ils avaient vécu tout ça. Il y a une dame, entre autres, qui, elle, avait vendu sa ferme et elle avait placé l'argent pour que ça devienne l'héritage de son fils, finalement.
Oui.
Et là, voilà, est arrivée cette fraude par Xavier Gervais. Un autre homme, lui, qui a subi des pertes parce qu'on lui avait parlé d'intérêts importants. Il a dû payer plus d'impôts, ce qui l'a empêché, finalement, de prendre une année sabbatique parce que les sommes, finalement, ont été plus amplement élevé que ce qu'il pensait. Bref, des gens qui ont vécu des impacts par rapport à la confiance aussi. Alors, je vais entendre la procureure de la Couronne, Maître Émilie Barry-Côté, qui résume les propos des victimes aujourd'hui à la Cour.
En fait, ces personnes-là ont été remboursées par la Banque nationale, mais ont quand même eu des impacts fiscaux pour lesquels ils ont perdu de l'argent. Les victimes sont venues raconter au tribunal qu'une fraude, c'est pas seulement ça n'a pas seulement un aspect financier, mais c'est plus que ça. Ça a eu beaucoup d'impact dans leur vie, un stress, une anxiété. Aller à la banque, c'est faire confiance à une institution et aux gens qui y sont présents. En faisant confiance à ces gens-là, les personnes flouées ont perdu confiance dans leur propre jugement par rapport à leur relation qu'ils pouvaient entretenir avec des conseillers financiers, par exemple.
Donc, ces gens-là qui avaient placé effectivement leur confiance en Xavier Gervais. Et là, c'est l'Autorité des marchés financiers aussi qui était intervenue dans le dossier de cet homme-là. Il y a des ordonnances de blocage qui avaient été émises et on a pu saisir un montant de 347 000 $ qui devrait être remis à la Banque nationale puisqu'elle a remboursé les victimes. Mais aussi, ça devrait servir aux victimes parce que je le disais, il y a certains intérêts qui ont été remboursés, mais pas en totalité. Et ce qui était particulier aujourd'hui, c'est que, outre la prison, Xavier Gervais devra aussi rembourser 100 000 $ sur 10 ans à la Banque nationale. Parce qu'on s'entend que c'est principalement la banque qui a été lésée dans cette affaire-là, puisque les victimes ont été remboursées.
Ouais.
Et je vais entendre Maître Émilie Barry-Côté à nouveau du ministère public qui explique comment on s'est basé pour établir ce montant-là de 100 000 $
On comprend que le 100 000 $ est une petite goutte d'eau à comparer le 1,7 million de pertes qu'a pu subir la Banque nationale. Mais en fait, on a pris compte de la possibilité pour lui de rembourser. Monsieur va être en prison un certain temps et par la suite, bien évidemment, il ne pourra plus exercer le métier de planificateur financier. Donc, il va devoir se trouver un nouvel emploi. Ceci étant dit, il n'y a rien qui empêche la Banque nationale ou d'autres investisseurs qui ont été floués de prendre des recours au civil contre Monsieur Gervais.
Alors, est-ce que ces gens-là vont se tourner effectivement vers des poursuites civiles?
Ah oui, évidemment, j'ai intérêt, même s'ils ont été remboursés de tout ce qu'ils ont vécu. Là.
Oui, et la banque aussi, évidemment, qui a dû absorber tout ça. Donc, ça,
on s'entend-tu que lui, c'est sûr qu'il ne fera plus ce métier-là?
Non.
Mais de toute façon, à écouter ce que tu me dis, c'est assez mauvais.
On peut en déduire ça, effectivement. Les placements qui ont été dilapidés, peut laisser penser que ce n'était pas évident.
Et là, il a pris son sac à dos et il est parti en prison.
Ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'il avait l'intention de faire des études à sa sortie de prison pour devenir ambulancier. Il a fait des excuses aux victimes et il s'est adressé directement aux personnes présentes. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il tentait de régler ses problèmes, mais finalement, il s'est retrouvé pris dans une espèce de spirale
de
mensonges. Bien, en fait, c'est que comme il n'a pas été capable de rembourser sa famille... À un moment donné, il a essayé de retrouver l'argent.
Ouais.
Mais ça c'est.
Mais à la cour, on a juste parlé de mauvais placement.
C'est ce qu'il a dit, effectivement. Puis là, un mensonge en entraînant un autre, ça s'est déroulé comme ça. Puis on parle d'une fraude importante. Et ce que le juge lui a dit, c'est que ça, quand on fraude comme ça, puis qu'on a des fonctions de planificateur financier, ça fait que ça mine la confiance du public envers ce genre de travail-là. Donc, il lui a dit de redevenir un actif pour la société. C'est ce qu'il lui souhaite.
Oui, oui. Puis on est dans une société où on permet aux gens de se reprendre en main. Puis,
Mais il n'y avait pas d'antécédent judiciaire, donc...
Non, mais il a lésé des gens. Puis ces gens-là vivent avec les séquelles de ses gestes. Et ce qui vient avec... Parle-moi aussi de René Bolduc qui finalement subira un procès devant jury pour des gestes à caractère sexuel. Ça, c'est pas l'histoire de sa sœur.
En fait, c'était celle qui vivait chez les parents de René Bolduc.
Adoptif.
Oui, voilà, famille d'accueil, René Bolduc est accusé, de même que son frère Jean-Guy Bolduc, de gestes à caractère sexuel à l'endroit de cette fillette-là.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, c'était René Bolduc qui revenait. Il est cité à procès sur 3 chefs d'accusation. On parle d'attentat à la pudeur, grossière indécence et agression sexuelle entre 1975 et 1983.
Le pourquoi que c'est attentat à la pudeur, c'est qu'on se réfère au code criminel de ces années-là.
Exact, parce que ces accusations-là n'existent plus sous cette appellation-là. Donc, la victime qui est encore là, encore une fois accompagnée du chien de soutien là, émotionnel Canac du SPS, elle suit de très, très près. Mm-hmm. Tout ça, donc, ça a été fixé du 9 au 20 décembre, donc dans presque... presque un an, finalement. La poursuite qui compte faire entendre 3 témoins durant ce procès-là. Et ce que dit la victime, c'est que René Bolduc a abusé d'elle à plusieurs reprises dans le sous-sol de la résidence lorsque les parents étaient absents. L'autre frère également, Jean-Guy Bolduc.
Lui va faire face à la justice bientôt.
Voilà, c'est pas en même temps, mais les deux là, sont accusés de gestes semblables.
OK. Et c'était le retour aujourd'hui devant le tribunal d'un des individus accusé en lien avec le braquage chez Olympic Metal à Ascot Corner.
Oui.
Braquage qui avait été fomenté avec un employé.
En fait, c'est celui-là, Jean-Charles Reeves, qui, lui, est accusé de complot pour ce braquage. Ça remonte au 1er juin 2017 quand même, ça fait un certain temps.
Un an et demi.
Et c'est un vol de 70 000 $ et Jean-Charles Reeves, lui, s'était d'abord fait passer pour la victime de ce vol-là. Il y avait eu des coups de feu qui avaient été tirés dans les airs. Vous vous rappelez, il y a 3 autres personnes qui avaient été accusées, Tommy Gauthier, Kevin Johnson et Jesse Larose. Or, finalement, Jean-Charles Reeves avait été arrêté par la suite pour être accusé de 5 chefs de complot parce qu'il aurait agi comme complice avec ces personnes-là.
Parce que lui, c'était l'employé lorsque les cagoulés étaient présentés là.
Exact, exact. Okay. Alors, ce que son avocat a dit aujourd'hui, Maître Alexandre Casey, c'est qu'il y a eu une enquête préliminaire cet automne et il y a eu certains faits qu'on ne peut pas divulguer parce qu'il y a une ordonnance de non-publication, mais des faits qui ne supporteraient pas certaines accusations portées contre son client. Alors, lui, il a dit, il y a des témoins qui ont dit des choses, donc... Là, ce qui se passe, c'est qu'on va continuer de discuter, de s'entendre entre la couronne puis la défense.
Est-ce qu'on remet en doute le fait que le gars est complice?
Ça, on ne peut pas aller au-delà de ça.
On ne peut pas le dire. C'est ordonnance de non-publication.
C'est ça. Est-ce que les faits qui vont être ressortis de ça, ça va faire en sorte qu'on va amoindrir peut-être les accusations? Il y a toujours un jeu de négociation et de discussion.
Oui.
Donc, pour aujourd'hui, ce que dit Jean-Charles Rives, c'est qu'il renonçait au délai pour donner le temps aux avocats de discuter et son dossier va revenir à la prochaine ouverture des assises le 25 mars prochain.
Parce que, assurément que pour certaines accusations, on se base sur les témoignages de certains individus.
Voilà, les trois autres...
Et probablement.
Oui, qui ont été condamnés. Parce qu'il y en a qui sont détenus. Oui. Déjà, qui ont été condamnés à la prison.
Déjà, hein?
Oui, oui, eux, leur dossier, là, ça s'est fini avec l'emprisonnement.
Est-ce qu'ils avaient eu des accusations réduites?
Je ne peux pas te dire ça avec précision. Non,
parce que je fais le calcul
mais
là,
dans
présentement.
Leur cas, c'est ça, faudra
voir. À savoir que... Fais-moi un petit témoignage contre un tel, puis on va peut-être négocier ta peine. Parce que ça, hein, ça arrive.
Oui, ça peut arriver.
Un bon témoignage contre un allègement de peine.
Ça va être intéressant de voir dans le cas de Jean-Charles Rives, qu'est-ce qui va ressortir.
Ben oui.
Est-ce qu'on va réduire les accusations? Mais dans le cas des trois autres, je ne peux te l'affirmer.
C'est intéressant, ça?
Oui.
Quand est-ce que ça revient,
cela?
Ça revient
le 25 mars.
Parce que c'est pas un petit vol, là.
Non, 70 000 $.
Ils savaient où ils s'en allaient, les autres, là.
Dans le coffre-fort.
Oui. Oui.
De l'entreprise.
Oui.
Olympic Metal.
Puis les coups de feu par en l'air.
Ah oui, tel un film américain.
C'est un scénario. Là.
Oui, tout à fait.
Du moins de la version des enquêteurs et de la poursuite.
C'est ce qui est
dans le fond, c'est ça, là.
Oui, puis quand on dit les témoins lors de l'enquête préliminaire, ce qui fait en sorte qu'on changerait peut-être. C'est ça là, qui va être intéressant.
Hey!
Quand on va avoir plus de détails, on va vous les donner.
Allez, je prends 30 secondes.
Oui.
Maison du bonbon.
Oh.
Fermeture.
Fermeture.
Moi, de tout temps, des gens que j'ai côtoyés, entre autres des gens qui ont passé par les écoles secondaires on va appeler ça le plateau, là, et même des parents, c'est un classique, la maison du bonbon.
C'est
Là, on annonçait ces dernières heures sur leur page Facebook, fermeture définitive.
Oui, à compter d'aujourd'hui, je suis passé, Martin, effectivement, et ce que le propriétaire écrit, c'est que c'est avec beaucoup de tristesse qu'il fait. Et qu'il tente de vendre la maison du bonbon. Donc, si un acheteur se manifeste, avis aux intéressés, il va assurer la transition, mais en attendant, c'est complètement fermé. Puis, il y a encore plein de beaux bonbons à l'intérieur. Et puis, c'est sûr que sur la page Facebook, les gens réagissent beaucoup.
Ah, c'est sûr.
Tu parlais des étudiants, mais il y a des adultes comme moi
qui
aimaient aller
sucrer là-dedans. Bébite à bonbons.
Ben oui. Mais je ne suis pas la seule. Là,
non,
si
je le sais.
Aux réactions.
Non, je le sais. Hey, merci, Marie-France.
À demain. À